C'est la bande originale, soyez les bienvenus et merci d'être à l'écoute avec Leïla Kadou.
Bonjour à tous.
Daniel Morin,
bonjour,
Tom Villa, Guillermo, tout à l'heure, Tanguy Passureau et notre invité Daniel Pellac. Oh. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Et merci d'être notre invité. Vous êtes un habitué maintenant de cette émission, mais c'est toujours avec un plaisir non dissimulé que l'on vous lit, que l'on vous découvre et que l'on rêve avec vous, avec cette loi du rêveur qui vient de sortir à peine quelques jours, c'est
oui,
ça?
Oui, le 3 je crois.
Voilà, chez Gallimard, votre nouveau roman. Alors, est-ce que c'est tellement autobiographique que
sans dire gênant,
on part ouais, par moment, oui, que l'on part dans trois grands rêves qui sont presque chronologiques. Est-ce que c'est un énorme clin d'œil à Fellini que vous faites, ou est-ce que c'est une mise en abîme de d'un auteur qui explique comment il fonctionne et comment il écrit?
C'est tout ça, oui, c'est tout ça à la fois. Au départ, il y a, en effet, j'avais fait un rêve. Moi, je tiens le journal de mes rêves. Je note ça parce que
ce qui se passe depuis que vous êtes enfant.
Depuis que je suis enfant. C'est plus intéressant que ce qui se passe dans ma journée consciemment. Je suis très surpris à chaque fois. Donc, je suis mon propre spectateur. Et un jour, j'ai décidé de tirer un fil d'un rêve et de tirer ce fil à partir de la réalité de la veille, du fait que je me réveillais.
Et d'en rajouter un tout petit peu, vous le dites d'ailleurs.
Bien sûr, et tirer ce fil jusqu'au bout du possible de la narration, quoi. Et ça a donné ce roman.
Alors ce qui est formidable, c'est qu'il est un peu en deux parties, ce roman, c'est-à-dire qu'il y a en effet les premiers rêves avec lesquels on se balade. On ne sait d'ailleurs pas trop, c'est un peu comme Inception, hein, on ne sait pas trop si on est dans le rêve ou dans la réalité, c'est assez malin, on attend de voir une toupie tourner en se disant est-ce qu'on se fait avoir
ou pas. Il nous plante à chaque fois, Daniel Pellac, à chaque fois, c'est un menteur. Et d'ailleurs le jeu qui va suivre va nous intéresser parce qu'il a, il a des dispositions. C'est un romancier incroyable, et à chaque fois que je vous ai cru dans le livre, et à chaque fois derrière, bam, un petit coup derrière la tête.
Vous êtes un escroc, vous auriez pu être animateur. Vous auriez pu être animateur télé.
Pas sur France 2. Mais c'est des escrocs. Et puis il y a la deuxième partie, c'est-à-dire il y a celle justement où vous expliquez quel est votre travail, où vous expliquez quels sont vos échanges quand vous faites lire la première partie de ce propre roman, La loi du rêveur, et puis que d'un coup vous commencez à narrer la suite.
Oui,
vous n'êtes pas d'accord avec les deux parties?
Si, moi je suis, par principe, quand je viens vous voir,
tout. Non, mais au contraire, j'aimerais savoir.
En effet, il y a une deuxième partie qui est la confrontation du réel. Voyons, qu'est-ce que c'est? Ta mère, elle a vraiment bossé pour Fellini? Elle était vraiment costumière à Cinecittà? Réponse dans la deuxième partie.
Ne dévoilez rien.
Ton ami Louis, qui est l'exemple du personnage de Camo. Tu as vraiment fait de la plongée sous-marine.
La plongée sous-marine, c'est ça. Le clocher, la carotte du bar tabac, la rue de la paix, la rue du tabac, tout ça. Non mais c'est formidable parce que vous promenez dans vos rêves, nous on se balade avec vous et puis vous nous baladez.
C'est-à-dire que j'avais envie, en fait, à partir de ce départ un peu onirique comme ça, j'avais envie d'écrire un vrai roman à suspense, mais où il n'y aurait pas de péripéties. Il n'y a que du suspense sans les péripéties. Dans un polar, vous avez du suspense parce qu'on
sait
qui a tué qui, comment ça marche, comment il a fait, etc.
Oui, il y a une intrigue au départ.
Et pourquoi? Tandis que là, il n'y a pas de péripéties, mais je voulais mettre du espèce de suspense à
ça,
état
en tout
pur.
Cas, ça fonctionne, et à la fin du roman, la seule chose qu'on puisse se dire, c'est je regrette de ne pas avoir eu un petit cahier, moi aussi.
Ouais. Ah oui, mais faites-le.
C'est un peu tard, cher ami, vous avez commencé, vous avez 10 ans. Et puis, on n'a pas le talent de l'improvisation, de l'imagination, et de la fabulation que vous avez. Mais
vous réveillez avec un carnet et un crayon, et que vous notez les toutes dernières images d'un rêve que vous avez dans la tête.
Ouais, c'est génial.
Au début, vous notez rien parce que vous ne vous souvenez
rigolo,
de rien.
C'est rigolo,
comme d'habitude. Et puis petit à petit, vous vous souvenez des choses. Et puis finalement, vous vous en souvenez tellement qu'il arrive même que vous interveniez dans vos propres rêves en vous disant
faut pas que j'oublie
de noter ça demain matin.
Vous avez lu mon cahier que je n'ai pas écrit. Allez, on y va avec justement le. les affirmations. Bonjour. Daniel Pénac, il y a plusieurs affirmations qui sont pliées dans un papier. Vous ne savez pas, enfin vous les connaissez, mais vous ne savez pas laquelle, dans quel ordre vous allez les prendre. Donc ouvrez le papier que vous voulez.
Et vous
lisez l'affirmation et on verra si c'est.
De façon très convaincue et convaincante.
J'ai failli déclencher la Troisième Guerre mondiale.
Alors. Chacun a droit à deux questions.
C'était quand?
C'était en 1968.
Leïla.
Est-ce que c'est en lien avec un texte que vous avez pu écrire?
C'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est pas directement en lien avec un texte. Non, c'est en lien avec ma vie. J'ai failli déclencher la Troisième Guerre mondiale.
C'était un lien avec les événements de mai 68?
Non. Oui, oui, d'une certaine façon, oui.
Guillermo. Est-ce que vous connaissez personnellement Kim Jong-un?
Non. Ça pourrait aider.
Ou l'Iran.
Et je ne suis pour rien dans la naissance de Trump.
Leïla, ta deuxième et dernière question.
Est-ce que c'est en lien avec le service militaire?
Non.
Daniel Morin.
Guerre mondiale, mais une guerre militaire ou une guerre
absolument une guerre mondiale, militaire. Un massacre moral.
Un troisième guerre mondiale.
Comme la deuxième.
Tom Villa.
Et en combien de temps? Sur un petit truc ou ça a pris un peu de temps
C'était. Ça aurait pu se déclencher, mais je l'ai empêché. Voilà.
Ah. Guillermo. C'est ma question. Est-ce qu'il
autrement
avait,
est-ce dit, avant même la réponse, vous avez à me dire merci. Voilà. Si vous n'avez pas vécu de Troisième Guerre mondiale jusqu'à présent, c'est grâce à Bibi.
Alors vrai ou faux?
Merci Bibi.
C'est faux.
C'est faux.
Tom, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est un truc d'écriture.
Moi je dis que c'est vrai.
C'est vrai, je pense que c'est vrai,
mais c'est dans un livre.
Oui, il a pas raconté un épisode. Il est revenu en arrière. Il aurait pu créer cette Troisième Guerre mondiale, mais
regarde pas comme
fait.
Ça. Je peux rien pour toi. Mais...
Alors la majorité dit faux, c'est ça. Faux. Daniel Pénac, c'est vrai.
C'est parfaitement vrai.
Oui, mais à un moment donné, c'est la majorité qui l'emporte. Hein.
Mais c'est parfaitement vrai, parce que un jour, on était à table avec mon père, et je venais d'avoir ma licence de lettres. Mm-hmm. Et c'était en 68. Et mon père, à table, dit donc, je suis vachement inquiet. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon petit papa, qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? Il me dit, écoute, il t'a fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour la grègue? Alors là, comme je suis un brave garçon, j'ai dit, mon petit papa, rassure-toi, je vais t'épargner une Troisième Guerre mondiale, je ne passerai pas la grègue.
Je ne peux pas accepter, non. Donc la vérité.
C'est vrai.
J'ai raison, c'était faux.
C'était faux, c'est super faux.
Qui sait que c'est faux?
Moi j'avais dit faux.
Comment c'est faux?
C'est imagé.
Si j'avais passé la grègue, nous serions peut-être pas...
C'est prétentieux, Daniel.
Allez, une autre...
Moi j'ai confiance en Daniel Pénac.
Une autre affirmation, Daniel Pénac.
Une autre affirmation.
Je vous en prie. Daniel Pénac.
Je n'ai su écrire qu'à l'âge de 8 ans.
C'est vrai?
Question Leïla. Mais non, c'est pas la question. Le mec, il croit à la naïveté de l'invité. Ouais. Bon, dites-nous si c'est vrai ou faux. Leïla.
Parce qu'avant, vous étiez incapable de faire des lettres, la graphie, c'était compliqué.
D'écrire, quoi.
C'était. Non, mais.
Faites pas. Vous pouvez pas écrire avant 8 ans, parce qu'avant, vous pouvez pas écrire.
Mais t'étais censé être avec moi, je te rappelle, parce qu'on est censé le démasquer. Donc mais tu joues avec moi.
Mais vous faisiez quand même des coloriages?
Oui.
Et ses doigts en bois, on les a changés.
Daniel.
On a l'un des meilleurs auteurs français qui vous dit qu'il n'a pas su écrire avant 8 ans.
Oui, mais justement, on joue sur les mots peut-être avec cet intitulé, ne pas avoir su écrire, ne pas être capable de raconter une histoire du début à la fin, ou avoir peur de le faire.
Leïla, vous voulez une réponse
maintenant? Réponse à tout ça.
Oui, moi j'ai une autre question. Non, est-ce que vous avez... on patine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense que c'est Smile sous le cupcake. Voilà, je pense que c'est...
Non, arrête, on n'est pas dans Masked Singer. Guillermo Guise.
Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit où vous avez eu 8 ans? Il y a eu un...
8, tu dis combien?
8, 8, mais moi c'est...
Déjà tu vas apprendre à parler français,
mais
on en parle.
Qu'est-ce qu'on dit?
Non, mais à 8 ans vous avez réussi à écrire. À 8 ans,
oui,
c'est moi, je vais...
Je vais te faciliter. Jusqu'à 7 ans. Dis jusqu'à 7 ans. Et là, le mec vient jusqu'à 7 ans.
Et quand les jours où vous avez eu 8 ans, vous avez réussi.
C'est ridicule, ça.
C'est pas une bonne question.
Non, okay, c'était la même question sur le papier. Alors.
Est-ce que vous avez commencé l'école un peu plus tard que les autres?
Non.
Est-ce que ça va mieux maintenant?
Ah bah, il écrit bien, oui.
Un peu, j'y arrive vaguement. Mais c'est encore en relation avec les inquiétudes de mon père concernant ma scolarité. La légende, il y avait la scolarité était si nulle dès le départ qu'il y avait une légende familiale où on prétendait que en 12e, c'est-à-dire aujourd'hui au tout début.
12e, c'est maternelle.
J'avais appris, il m'avait fallu un an pour apprendre la lettre A.
Ah oui.
Alors tout le monde avait la trouille dans la famille. Et mon père
Vous en dites beaucoup, là.
Alors,
Stop, on s'arrête. Alors dites-moi, est-ce que c'est vrai ou faux qu'il n'a pas su écrire jusqu'à l'âge de 8 ans?
C'est vrai, ouais.
C'est vrai. Daniel Pénac?
Oui, c'est assez vrai. Oui, c'est ça terrorisait.
Mais non, c'est faux.
Autour de moi. C'est faux. C'est vrai. C'était un désastre scolaire absolu. Il y avait cette légende.
Non, vous n'avez rêvé pas à écrire la lettre A jusqu'à l'âge de 5 ans?
Non. Quand je suis, la légende familiale, c'était que quand je suis entré, on m'a appris à lire à l'école. Eh bien, en un an, il semble que je n'ai réussi qu'à apprendre la lettre A. Et mon père disait, toujours apaisant, disait, mais nous n'avons aucun souci à nous faire. Dans 26 ans, il possèdera parfaitement son alphabet.
C'est drôle.
Il était positif.
Une lettre par an, c'est bien en même temps. Ok, très bien. Allez, une dernière affirmation, Daniel Pénac, vrai ou faux? Écoutez bien, n'essayez de pas changer en tout cas entre le vrai et le faux. Il se prend lui-même dans ce qu'il raconte.
Non, ça l'est nul cette question.
c'est votre vie, Daniel Pénac, qui est écrite dans ses papiers.
Alors, allez-y. Nouvelle.
Ne la jugez pas, dites-la.
Non, oui, j'ai le choix entre deux. Il y en a une, on me demande si je suis en train de préparer le scénario du prochain Astérix.
Donc vous affirmez que vous préparez...
Non.
Bah si.
Ah oui, c'est le principe du jeu. Bon,
celle-là, elle est fausse.
Je suis supposé...
J'ai pas compris.
C'était pas mal de préparer les invités avant. La dernière, c'est quoi?
Lisez la dernière, et après, à vous de nous faire croire que...
Et on s'auto-jugera aussi.
La dernière, voilà. Quand j'étais prof...
Oui.
De seconde et de première, j'enseignais avec des carambars.
Ah oui, ça c'est bien votre genre. Mais alors, question.
Oui. Non, c'est bien votre genre.
À quel moment vous donniez des carambars?
Ah, ou pourquoi enseignais-je avec des carambars?
Moi, c'était plutôt à quel moment, mais vous pouvez me dire pourquoi.
Ça revient au même.
Oui, c'est point.
Les blagues ou le caramel?
Le sucre.
On était... C'est vrai. On était...
Il a fait le shortcut. Okay. Il a fait le shortcut. Allez, vous me cassez la tête avec vos questions.
Moi, je dis que c'est le meilleur invité qu'on ait jamais eu.
Non, mais
on va laisser s'interviewer lui-même peut-être après.
Pourquoi est-ce vrai?
Parce que
Maggie se marre au lieu d'être concentrée. Sur
je me marre
sujet.
Parce que j'ai jamais vu quelqu'un détruire autant un concept. C'est formidable.
Pourquoi c'était ma question? À quel moment?
Tu crois qu'il va te répondre?
Ben j'espère, oui.
Donc, on était avec mes secondes ou mes premières. On était en compagnie de Diderot, de Rousseau, etc., etc. On était dans les lumières, donc dans l'intelligence pure. Et les pauvres gamins crapahutés pour tirer le maximum de sens possible. On faisait des exercices d'intelligence extrême. Et il y avait 2 heures consécutives, et à la fin de la première heure, ils étaient un peu crevés. Alors, je distribuais un carambar à chacun, c'était notre récré, et on devait lire les histoires des carambars, qui sont toutes plus idiotes les unes que les autres.
Ah, je ne suis pas d'accord.
Mais bien sûr que si, c'est même leur charme. Et alors, il y avait un carambar surnuméraire. Et celui qui trouvait l'histoire la plus conne, gagnait le carambar surnuméraire.
Mais qui jugeait de l'intelligence ou de la bêtise d'une blague?
Le maître. Le magistère.
D'accord.
Moi-même.
Ici, à l'époque, il y avait des moyens dans l'éducation nationale.
Deus.
Les carambars. Je faisais ça sur mes deniers, cher. Un jour, ça a très mal tourné parce que les carambars sont passés du jour au lendemain de 5 centimes à 20 centimes.
Ouh là.
C'est ça le budget.
La crise. Du coup, Geoffrey des clopes.
Alors, suspense, vrai ou faux? Ok, d'accord. Allez, revenons sur cette loi du rêveur où justement...
Ce qui ferait que ce soit faux.
On peut se demander ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous jouez d'ailleurs avec ça. Et Leïla a raison, vous êtes un parfait menteur. D'ailleurs, pour être rêveur, pour être auteur, il faut être menteur?
Ah non, non, pour être rêveur, il faut être vous et moi, tout un chacun et n'importe qui. Parce que le rêve est une fonction vitale. Si on ne rêve pas, on meurt. C'est aussi simple que ça. Ce qui différencie les gens, mais enfin, tout à l'heure, nous allons avoir un vrai spécialiste des rêves, mais c'est ceux qui s'en souviennent et ceux qui ne s'en souviennent pas. C'est ça la grande différence. Moi,
c'est
je
Tristan m'en Frédéric Moir qui est psychanalyste et qui viendra nous parler, oui, puisqu'il est spécialiste du langage des rêves. Oui.
Donc moi, je m'en souviens, comme s'en souvenait, mais à un autre niveau et de façon beaucoup plus intéressante, Federico Fellini. Fellini
qui a écrit un livre là-dessus.
Il n'a pas écrit un livre là-dessus.
C'était des dessins, un recueil de dessins et de phrases.
Il a tenu, lui aussi, le journal de ses rêves. Et il avait un psychanalyste jungien qui s'appelait Bernhard et qui avait dit, mais monsieur Fellini, puisque vous dessinez, puisque vous savez dessiner et peindre, dessinez-les et peignez-les aussi. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui cette merveille absolue qui est le journal, le livre de mes rêves, de Fellini. En italien, c'est Livre dei Sogni. En français, chez Flammarion, ils ont traduit ça, le livre de mes rêves, qui va ressortir d'ailleurs, oui, je crois, le 15 janvier, et qui est la somme des rêves peints, dessinés et peints par Fellini et écrits. À l'intérieur de ces rêves, il écrit dans les espaces laissés blancs par ses dessins et cette peinture magnifique.
Vous avez mis en exergue d'ailleurs une citation de Fellini en ouverture de votre roman. « Lorsque j'avais 6 ou 7 ans, j'étais convaincu qu'il existait deux vies, l'une où l'on vivait les yeux ouverts, l'autre les yeux fermés. »
Absolument, il en était convaincu et ça... ça a largement alimenté son cinéma. C'est-à-dire que le studio 5 de Cinecittà était une espèce d'excroissance du cerveau nocturne de Fellini. Et tous les matins, il arrivait, il avait fait un dessin gigantesque en plus de ça. Et on voit dans ses films ensuite des têtes, des tronches d'hommes, de femmes, des silhouettes qu'il a créé à partir d'images oniriques.
Alors justement, vous racontez dans votre roman qu'il faisait des castings pour rencontrer des tronches, qu'il se moquait totalement d'ailleurs de la qualité du jeu ou de la voix ou de l'interprétation des comédiens, mais qu'il voulait rencontrer des personnages. Ça, c'est une...
Oui, il cherchait à les incarner. Il cherchait à trouver dans la vie des incarnations d'images oniriques. Alors, avant de tourner un film, il passait une annonce dans le journal qui était « Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent le voir ». Et à ce moment-là, débarquait au studio 5 de Cinecittà la bande interminable des gens qui espéraient devenir des figures félliniennes. Mmh. Alors il y avait les grosses dames, il y avait les pédagogues
fatales,
ridicules, ouais, les ecclésiastiques ralentis, les petits mômes insupportables. Et tout ça débarquait. Et en effet, de temps en temps, il trouvait des gens qui ressemblaient d'assez près. Et il les modifiait. Il mettait une verrue sur un front, une cicatrice, des moustaches, etc. Et ça devenait les personnages de ses films.
Mais alors, pourquoi avez-vous choisi de faire ce roman, justement, à mi-chemin entre vos propres rêves et finalement un livre sur Fellini?
Ah, parce que je suis possédé par le cinéma de Fellini. J'ai dû voir à Marcord, qui par parenthèse veut dire je me souviens.
Je me souviens, c'est ce que vous racontez dans votre roman.
J'ai dû le voir, je sais pas, 50 fois, mais tous ces films. C'est un...
Et alors ça ne pourrait pas faire le sujet d'un roman à lui seul, Fellini?
Mais je fais ce que je veux, non?
On vous donne des petits conseils et puis d'accord, sympa.
Moi j'essaye d'aider, tu vois, le mec il sait que écrire la lettre A, je me dis je peux l'aider. Non mais il fallait, en tout cas, vos rêves sont liés au parcours de Fellini, ou vous avez découvert depuis...
Non, c'est le fait de rêver.
D'accord.
C'est une espèce de sympathie entre rêveurs, bien qu'on ne se soit jamais rencontrés. Ça, j'aurais adoré le connaître.
Mais bon. Vous avez commencé à dessiner ou à écrire en tout cas vos rêves à l'âge de 10 ans, et ça c'était pas sous l'influence de Fellini?
Non, c'était spontané, oui, parce que c'est intéressant. Même si on se trompe, vous connaissez l'anecdote d'Hitchcock?
Oui, allez.
Hitchcock une nuit rêve d'un film sublime. Alors il se précipite sur son calepin, il note les deux ou trois trucs de ce film sublime. Et le lendemain matin, il se réveille avec le souvenir d'avoir rêvé son film sublime et d'avoir noté les choses essentielles pour s'en souvenir. Et il ouvre son calepin et sur le calepin, il avait écrit « Boy meets girl ». Un gars rencontre une fille. C'était tout.
C'est un bon point de départ.
Énorme déception.
Tandis que Fellini,
ça a été très
lui...
copié, en tout cas, hein, comme pitch.
Fellini pouvait rêver, il rêvait des choses qui étaient, pouvaient être la matière d'un film.
Et rêver des aventures de Camo, vous, dans le livre, on comprend que enfin, c'est difficile de raconter pour ne pas dévoiler l'intrigue du roman. Parce qu'il y a quand même une intrigue. Le personnage de Camo que vous créez à partir d'un ami d'enfance, on va le dire comme ça, c'est des aventures qui vous viennent en discutant, mais aussi en rêvant.
Oui, il y en a une ou deux sont ouais. nées de rêves. Oui.
En notant, donc le matin, vous êtes...
C'est-à-dire d'une exploitation... Et honté, ouais. narrative des rêves, qui n'est pas du tout une explication des rêves, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est je profite du rêve pour tirer un fil et raconter une histoire, oui.
C'est la récolte du matin, quoi. Le matin, oui. on récolte.
Et à quel point vous embellissez alors que ce dont vous avez rêvé, c'est vraiment c'est puissance 10 ou c'est ça, un tout petit peu
enjolivé ? C'est même pas un embellissement, c'est un changement de nature. Vous êtes dans un rêve. Ce rêve vous a proposé des images et des émotions, essentiellement. Et vous tirez un fil anecdotique qui très vite n'a plus rien à voir. Il raconte une histoire structurée, ce que n'est pas le rêve. Il part dans d'une toute autre direction. Il s'intéresse au sens narratif, anecdotique, comme ça, de l'histoire que vous allez raconter.
Vos rêves sont extrêmement précis dans le détail du nombre d'auréoles qu'il peut y avoir autour de la tête d'un Saint-Sébastien, qui est comme
ouais,
par
c'est
hasard
assez précis,
le jour mais... de la date de naissance de Federico Fellini.
Non mais il y a un moment où le récit cesse d'avoir un rapport avec le rêve. Le récit, ça part d'un rêve, mais ensuite, le récit prend son indépendance.
D'accord.
Il part dans la vie.
Et là, ce que vous avez écrit, c'est à partir d'un cahier que vous avez retrouvé, ou que quelqu'un a retrouvé.
Alice ?
Oui, ça, oui, qui me dit, mais dis donc.
Votre famille ?
Votre fille ?
Oui. Vos enfants ne savaient pas que vous aviez ce cahier
non,
de rêve ?
Non. Non. C'est secret, ça, il sera jamais publié d'ailleurs.
Et vous avez encouragé votre famille, vos enfants, votre entourage à faire cet exercice ?
Eh bien, non, parce que là, vous êtes... oui, à faire l'exercice, j'encourage tout le monde, même vous. tout le monde.
C'est pour
le
public, les gens.
Ça ne devient pas tout le monde, ça devient n'importe qui.
Tenez le journal de vos rêves. Vous allez vous tenir compagnie pendant la journée, après en avoir bavé pendant la nuit, parce que souvent, ce n'est pas marrant, les cauchemars. Mais ça devient plus digeste.
C'était ça ma question, d'ailleurs. Est-ce que vous notez aussi bien les rêves que les cauchemars ?
Oui.
Je distingue le positif du négatif.
D'ailleurs, j'observe qu'il n'y a pas de terme pour désigner les rêves magnifiques. Il y a cauchemar.
Il y a fantasme.
Non.
Fantasme, pas nécessairement magnifique.
Ah bon ?
Fantasme, il est fantasme.
Mais
on n'a pas de terme. C'est vrai, on a le terme cauchemar.
Je vais regarder à nouveau la définition de fantasme. Pour moi, il y avait une notion de fantastique, de rêve plus. Non, ça s'appelle un délire sexuel. faut que tu te calmes bien.
Guillermo, franchement.
On peut
j'ai un truc sensé dans cette émission. Ce qui veut dire, c'est que on n'a pas de terme pour. On dit un mauvais rêve, c'est un cauchemar, mais un très beau rêve, il y a pas de terme pour dire un très beau rêve.
C'est peut-être un pléonasme.
Dire
rêve.
Rêve et cauchemar, ouais, peut-être. Non. Je sais pas.
Non, parce qu'il y a des rêves neutres entre les deux aussi.
Sans intérêt. Ce qui vous arrive aussi.
Ça, c'est des points de vue. C'est un point de vue de romancier, c'est-à-dire qu'évidemment, moi, je juge de l'intérêt du rêve par rapport à son potentiel anecdotique. Quoi.
Ouais, ouais. Mais ce qui va vous apporter.
À tenir quelqu'un en haleine.
D'un point de vue analytique, c'est idiot.
Est-ce que enfant, vous racontiez vos rêves au petit-déj à vos parents ?
Non, je l'ai noté.
Privé.
D'accord, très bien. Ça s'appelle La loi du rêveur. Daniel Pénac est notre invité et c'est vraiment extrêmement agréable à lire.
Et c'est drôle aussi.
Ouais,
c'est drôle,
plus.
Moi je me suis bien marrée. Je me suis bien marrée parce que c'est bien de vous accompagner parce que quand on vous connaît, on connaît votre malice. Se dire que vous êtes à la fois le narrateur, vraisemblablement, ou pas loin d'être ce narrateur, et que vous nous perdez sans cesse. Et c'est ça que j'aime bien, se faire perdre.
La loi du rêveur chez Gallimard, signé Daniel Pénac. Voici venir Tom Villa. Tom Villa est expert en rien, n'est-ce pas ?
Ah, comme tous les Français.
Et Tom Villa, je ne le savais pas, mais oui. Vous êtes un expert en rêve.
Et oui, parce que je dors, et comme tout être humain, ça m'arrive d'avoir des pensées très bizarres. Rien que cette nuit, j'ai fait trois rêves différents, très différents les uns des autres. Le premier, comme je joue la première de mon spectacle à Paris ce soir, et j'ai pas ça pour faire de la pub.
C'est à quelle heure ?
Sinon, c'est à 21h30, au Théâtre de la République, un boulevard Saint-Martin. Mais bref,
on n'a pas le temps de le dire.
J'ai rêvé que j'arrivais sur scène tout nu, que dans le public, il y avait personne, à part deux chats qui n'écoutaient même pas mes sketchs. Et puis après, ma copine allumait la lumière, et en fait, je rêvais pas, j'étais dans ma salle de bain. Mais sinon, j'ai fait un rêve très bizarre. J'ai rêvé que j'animais une émission et que dans cette émission, il y avait Oasis, Barry White et Lady Gaga qui venaient chanter. Puis après, j'avais Didier Deschamps qui venait me chercher en avion et on partait ensemble en vacances. Bref, j'ai rêvé de votre vie, Nagui. C'est marrant de se dire que pour certains, c'est des rêves et pour d'autres, c'est des souvenirs. Non, mais ça, ce sont des rêves cartésiens. D'ailleurs, on est d'accord, on parle des rêves liés au sommeil paradoxal, à l'inconscient, au relâchement de soi. On n'est pas en train de parler de oui, moi, je rêve d'une banque. Non. Ou moi, je rêve de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Non, on est sur des rêves qui n'arriveront jamais, des rêves improbables, genre, dis donc, cette nuit, j'ai nagé dans une piscine d'éléphants roses qui jouent au ping-pong avant de tomber dans le siphon de la piscine, où j'ai fait une chute de 14 km avant d'atterrir sur un matelas de d'ondes facochères. Non, des trucs qui arrivent pas, tu vois. Et puis d'ailleurs, il y a des histoires tellement improbables qu'elles paraissent improbables, on dirait que c'est des rêves, et puis non, ça arrive à certains, comme ces gens qui étaient en prison pour détournement de fonds, mais et qui ont rêvé qu'ils s'évadaient sans prévenir personne du Japon dans une caisse en bois pour atterrir au Liban et fêter le nouvel an avec leur famille. C'est Carlos Ghosn, c'est... D'ailleurs, petite parenthèse, c'est quand même drôle, si vraiment, c'est une rumeur, mais s'il a fait Japon-Liban dans une caisse pourrie, il sait enfin ce que ça fait de voyager dans une Twingo. Mais bon. Revenons au rêve, où souvent, c'est vrai qu'on fait des rêves un peu fous, mais nous, autour de la table, on est des gens normaux. Nagui, on fait pas de vagues. Non, mais moi, je me suis toujours demandé à quoi ils rêvent ceux qui ont déjà une vie incroyable. Par exemple, au pif, Pete Doherty, il rêve de quoi? Qui se lève à 8h du matin, qui mange une biscotte au beurre avec sa famille. C'est vrai, remarque, pour lui, ça doit être un cauchemar, ça. Et puis, moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est ceux qui essaient de trouver une signification à tous nos rêves. Tu sais, genre, tu te confies un peu, tu dis, oh, c'était terrible la nuit dernière, j'ai rêvé que je perdais toutes mes dents et tombais toutes les unes après les autres.
Mais tout le monde rêve de ça, ouais.
Ouais, mais t'as toujours un gars pour dire, ouais, mais t'inquiète pas, ça peut vouloir dire que t'as perdu quelque chose d'important dans ta vie. Bah oui, mais mes dents, c'est important, les dents. Regarde le crocodile sans les dents, c'est juste un très grand sac à main. Ça fait peur à personne. Et heureusement qu'il y a un sens caché à tous nos rêves, parce que c'est pas juste des fantasmes, parce que sinon ça voudrait dire que je me suis marié 3-4 fois avec des chèvres et que j'ai fait de la barque au bois de Vincennes avec Valérie Pécresse. Donc vous voyez, vous me jugez, vous voyez, c'est à cause de gens comme vous qu'on peut pas raconter nos rêves à l'antenne. C'est con parce que la nuit dernière j'avais fait un très beau rêve et que j'allais vous raconter, mais bon. Déjà, il y avait Daniel Pénac qui était dans mon rêve et j'ai rêvé que j'étais autour d'une table avec des gens et qu'il y avait un grand chef sioux égyptien avec des baskets pailletées à clous. Il parlait beaucoup. Et puis là, il y avait un homme barbu qui ressemblait à une sorte d'ours mais avec une chemise marron.
Ah, il a...
Et pour faire taire le chef égyptien, l'ours s'asseyait sur son visage. Et là, il y avait une femme très grande, très élégante qui venait prendre sa défense. Pas de peau, elle avait la voix de Guillermo Guise. Du coup, on comprenait rien à ce qu'elle disait. Comme si elle perdait toutes ses dents en même temps qu'elle parlait. Et puis là, je me suis réveillé. Bon, la semaine prochaine, je vous ferai une petite chronique sur les rêves prémonitoires. Ça peut vous intéresser, Nagui.
Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Alors, il y a aussi de la musique.
Attends, Tom Villa, j'ai pas dit, mais c'est ce soir.
On l'a pas dit.
C'est lui qui l'a dit, 21h30. Je le dis à nouveau, je dis merde. Toy, c'est au République à 21h30. C'est son premier soir. 21h30, Daniel. Toy.
La compagnie créole, toujours sympa.
Et oui, parce qu'il y a de la musique dans votre livre, Daniel Pénac.
Oui.
On retrouve d'ailleurs, c'est encore l'autre lien avec votre fille.
Nino Rota.
Non, Nino Rota n'est pas votre fille.
Mais Alice est musicienne.
Mais Alice est musicienne.
Oui.
Et vous lui demandez de participer à un spectacle, à une création autour de Fellini. Là aussi, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans toute cette histoire.
En même temps, je pense que quand on fait une mise en scène, on doit commencer par la rêver un peu, éveillée ou pas. Donc, c'est peut-être pas... Je ne sais pas, Daniel.
En l'occurrence, c'est pas moi qui fais la mise en scène. Mais... C'est Clara Bauer, qui est une metteuse en scène argentine. Et effectivement, on va faire cette petite pièce sur Fellini au Piccolo Théâtre Strehler de Milan.
Et avec le même délire. Et le même délire que vous racontez dans le livre?
Oui, c'est un délire, en un peu plus métable en scène.
Métable en scène. On va en parler tout à l'heure parce que c'est passionnant. C'est un travail qui doit demander beaucoup d'efforts, de concentration et de talent. Mais je serais curieux de savoir comment vous passez du rêve que vous avez eu de ce spectacle à la réalité. Donc c'est le 20 janvier.
Oui, le 20 janvier à Milan.
À Milan, au Piccolo Théâtre.
Au Piccolo Théâtre Strehler, oui.
Très bien. La loi du rêveur, c'est tout de suite, en tout cas, chez Gallimard, tout de suite accessible. Et Guillermo Guise, c'est encore plus tout de suite.
Beaucoup moins accessible.
Inaccessible.
Ça va les amigos?
Ouais.
Ça fait longtemps. Ouais. Oh, ça fait longtemps.
Trop.
Ouais, désolé, j'ai aidé Frédéric Becbédé avec les derniers détails de son bouquin. C'est moi qui ai trouvé le personnage de Naïma Pompadour Bouali. Et j'ai ri d'une grande marque de poppers. J'ai dit à Frédéric, avec ce nom-là, tu vas brouiller les pistes. Ils sauront jamais que tu parles de France Inter. Merci comment vous allez? Ça fait plaisir de vous retrouver, sauf un. Pendant un mois et demi. J'ai pas fait une seule chronique pendant un mois et demi. J'avais envie de créer de la rareté.
Oh, bien.
La technique Johnny. Regardez Johnny, il se montre vachement moins dans les médias en ce moment. Hop, résultat, il vend album sur album. Alors voilà, c'est ce qui me dit mon nouveau conseiller communication. Il m'a dit, Ernesto Fizubatracien, tu sais que si tu meurs d'un décès, tu fais plus 30 000 vues sur YouTube. J'ai dit, bah meurs-toi d'abord, Jacques Séguéla. Eh bien, et ça m'a fait du bien ce qu'on j'ai forcé. Je crois que quelque part, j'avais envie de lire tous ces messages. T'es où Ernesto? Pourquoi tu ne fais plus de chronique? J'avais franchement besoin de ça. Après, ces messages n'ont jamais été écrits. En tout cas pas par des autres gens. J'ai dû créer un faux compte moi-même pour m'envoyer. Ah, tu nous manques. Chaque fois je devais changer d'identifiant, tu vois, pour faire ah bon, c'est vrai, vraiment. Puis là, hop, déconnexion, reconnexion. Oui, absolument. L'émission n'a pas la même saveur sans toi. Déconnexion, reconnexion. Oh, mais ça me touche énormément. Nagui, t'es comme un père pour moi. Déconnexion, reconnexion. Plus de réponse. Du coup, je suis resté en Belgique pendant un mois et demi, figurez-vous. C'est la première fois que je reviens en France.
Oui.
Et j'arrive Gare du Nord, je vois tout le monde un peu agité. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous avez une grève ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Vous êtes tout le temps en grève dans ce pays. D'abord l'équipe de France dans un bus en Afrique du Sud, maintenant ça. Voilà. Les gens qui me disent, la justice sociale en matière de retraite, c'est un beau combat. Ah ouais? Et insulter la maman Raymond Domenech, c'était un beau combat peut-être. Quel foutoir. Donc j'ai essayé de prendre le métro Gare du Nord, mais je me suis fait sortir après une station. Bah ouais, j'ai voulu me déshabiller. Moi, je disais aux gens, bah si c'est pour être aussi proche les uns des autres, viens en peine alors, hein, tant qu'à faire. On fait des gosses, ça payera les retraites après. Hein. Sérieux, il y avait des frotteurs qui se sentaient un peu mal à l'aise. Quoi.
Ah, clairement, oui. Ils ont
en une station, je crois que j'avais l'ADN d'au moins 100 personnes sur moi. Je me suis dit, ah bah super,
sur moi.
Je me suis dit, si on m'assassine, on retrouvera jamais le coupable. Et du coup, je suis venu à pied depuis la gare de l'Est. Et bien franchement, ça va, avec un petit podcast. J'ai mis l'intégrale des chiffres et des lettres, 43 saisons. Je suis arrivé ici, je ressemble à Gérard Darmon. Et qu'est-ce que j'apprends? Apparemment, il y a des grèves aussi à Radio France. Mais qui travaille dans ce pays? En continuant avec cette mentalité, vous n'aurez jamais votre propre fusée. Hein. Vraiment, je vous le dis. Et en vrai, en Belgique, on a des nouvelles par contre de la grève des transports. Chez nous, la plupart des JT s'ouvrent comme ça. France, on n'a peut-être pas d'étoiles sur le maillot, mais on a des métros qui roulent. Pop, 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 qu'est-ce que tu vas faire? Alors, en revanche, la grève à la maison de la radio, comment vous dire? En fait, même ici, tout le monde s'en bat les steaks, apparemment. Franchement, pour avoir des infos, j'ai dû aller sur le Skyblog d'Arbet Laguillé, vraiment, et regarder les commentaires de Frédéric Sigrist, hein, qui est le seul membre de cette équipe dont on dira qu'il est encore un peu de gauche. Hein, vraiment. Quoi? On est la seule émission de cette chaîne ouvertement de droite. Je dois vous rappeler qu'il va venir maltraiter l'info à midi 10. Hein,
oui,
Guy Baudos peut-être. Non. Hein. Et quelque part, si j'ai été absent si longtemps, c'est parce que je voulais être solidaire des employés de Radio France. Mais je sais pas vous le dire, j'avais peur des représailles. Jamais. Déjà, vous me respectez pas à la base. Bon, on garde une petite pensée solidaire pour eux quand même qui luttent encore. Et moi, je vais aller retenter le coup dans le métro. Allez, bonne émission, les amis.
Wow,
France Inter, Nagui, la bande originale.
Qui fait tous.
Parfait. Ça va bien la musique là, hein, avec toi. C'est vrai que cette musique de Nino Rota, est-ce que vous savez comment ils fonctionnaient tous les deux, Nino Rota et Fellini? Parce que cette musique, elle est déjà elle-même remplie d'images. Est-ce que c'est la musique qui inspirait aussi des scènes à Fellini, ou est-ce que Nino Rota composait après avoir vu les images?
Je crois qu'ils en parlent, ils étaient très copains, ils en parlaient tous les deux. Il y a un assez joli film où de Fellini sur Fellini, où il est assis à côté de Nino Rota. Ils ont travaillé toute la journée, ils n'ont rien trouvé. Fellini met son manteau et Nino Rota pianote comme ça. Et il pianote, genre tin tan tan tin tan tan tin tan tan padabam pam. Et Fellini enlève son manteau. C'est ça, la voilà.
Et c'est génial.
C'est tout à fait par hasard. Par ailleurs, Fellini prétendait que Nino Rota n'avait jamais vu un de ses films parce qu'il s'endormait dès le premier quart d'heure.
En tout cas, ça, c'est toute cette deuxième partie de votre livre, La loi du rêveur, c'est justement consacré au rêve que vous faites de Fellini, autour de Fellini, d'un spectacle de Fellini et de la manière dont il pourrait construire un casting, une scène avec le public qui viendrait en participant. C'est un projet totalement fou, totalement dingue. Qu'est-ce qu'il en restera le 20 janvier de ce qui est écrit?
Le 20 janvier, on fait la présentation théâtralisée du livre. Mais le spectacle en lui-même, celui que j'ai imaginé dans le livre, qui est en réalité une résurrection, c'est la résurrection de Fellini, de Giulia Camasina et de Nino Rota. Mais ils hésitent beaucoup. Est-ce qu'il faut ressusciter? Est-ce qu'il ne faut pas ressusciter? Parce que l'éternité, c'est quand même... Il y a un certain confort, il n'y a pas de suspense, c'est donc pas d'inquiétude.
Ça roule bien.
Ça roule. Alors, faut-il ressusciter? Ils en sont là. Nous les avons pour l'instant laissé là. Et ce spectacle-là, j'espère bien qu'on le fera un jour, oui. Ah oui, oui.
Celui avec le public qui est...
Alors, le public... Ouais. Quand les,
un casting, en fait, avec, organisé
on
dans
on
le public.
On fait un casting à partir du public. Et ce qui ne pose pas problème, parce que quand les gens ne savaient pas jouer ou oublier leur texte, etc., Fellini leur disait, mais ça n'a aucune importance, compte. Il dit, comment ça? Compte amoureusement de 12 à 24, par un 12.
Donc il donnait 13, l'intention, 14. Mais pas le texte, oui, pour gens, doubler.
Et si vous regardez bien...
Il faisait de la post-synchro après.
Il faisait ensuite de la post-synchro, et c'est fou. Et perdument de savoir si les paroles prononcées correspondaient au mouvement des lèvres. Ouais. Et ça, si vous regardez les films de Fellini, très souvent, la post-synchro.
À cause de vous, maintenant, je ne vais regarder que ça.
Ouais.
Ah oui, je suis curieux de savoir.
Et en plus de ça, ils changeaient même leur voix. C'était quelqu'un d'autre qui disait le texte.
Un vrai comédien.
Un vrai comédien.
Qu'il soit lui juste.
Lui, il récupérait les trognes, il les mettait sur scène, les faisait jouer. Quand il n'arrivait pas à jouer, il faisait compter à la place de jouer.
C'est ensuite, fou, c'est
texte, un... C'était d'une liberté inouïe.
Oui, un vrai créateur. C'est-à-dire qu'il crée des êtres différents, avec une forme différente de la voix et la voix différente du...
Ils font pas ça sur Plus belle la vie, non?
Non, mais ça questionne le sens. Enfin, en tout cas, voilà, ce qu'on veut donner comme sens ou pas comme sens. Cette liberté absolue dans la création. Oui.
La loi du rêveur, chez Gallimard, le nouveau Daniel Pénac. Nous allons parler de la musique que vous écoutiez dans les années... Fin des années 60, début 70.
La maman des poissons, elle est bien gentille. Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent.
Bobby la pointe. Alors c'est pas Taquetti Taquetti, c'est plutôt la maman poisson.
Oui, parce que je la faisais chanter aux élèves. On chantait tous la maman des poissons.
Quelle était la force pour vous de Bobby la pointe justement? C'est son jeu avec la langue de la française, ça?
Le jeu avec la langue, oui.
Et 69, donc, on a évité la Troisième Guerre mondiale.
Merci Daniel. Merci Daniel.
Donc déjà, on est bien, on souffle, hein, on est plutôt pas mal.
Vous étiez à la lettre M, je crois.
Et vous commencez à enseigner, et vous dites, j'ai aimé ce job dès le premier quart d'heure. Et quand on lit les interviews où vous relatez ces premières années, ce que je trouve assez fascinant, c'est toutes les stratégies que vous avez réussi à mettre en place, comme ça, l'air de rien, juste pour réconcilier les jeunes gens avec l'école, leur image, la lecture. Quelle est, d'après vous, comment vous avez trouvé ces petites méthodes?
Mais d'abord, le fait d'avoir été moi-même un mauvais élève m'a donné cette science-là, c'est-à-dire de savoir ce que ressent.
On capitalise sur
ce qui est en échec scolaire. Ouais, oui. Ouais. Donc à partir de là, on a quand même davantage d'outils que quand on a été constamment un bon élève. On peut pas imaginer parce que c'est. Bon, alors, quel moyen. D'abord, c'est vivant, une classe. Ils sont presque aussi vivants que vous. Donc, on peut y aller. Et de cette vitalité
Ils sont multiples aussi. Comment tenir un même discours à...
Bien sûr.
À 39.
Alors, on a fait beaucoup on a fait beaucoup de théâtre, effectivement. Mm-hmm. Leur faire du théâtre, c'est-à-dire les faire participer à un projet commun où leurs individualités pouvaient s'exprimer dans leurs différences.
Et à eux, vous leur disiez de noter leurs rêves?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai toujours dit ça. Oui, faites ça. Vous verrez, c'est intéressant.
Est-ce que ça donne envie aussi de raconter ses rêves? Est-ce que ça donne envie de lire? Est-ce que tout passe par la lecture?
Je ne sais pas s'il y a une connexion entre le rêve. Mais ce qu'il y avait aussi, là où ils me trouvaient dégueulasse, c'est que, en même temps, je leur interdisais, quand ils faisaient des rédactions, je leur disais, attention, c'est pas un rêve. Ouais. Sortez pas par cette porte-là, je suis derrière avec un gros bâton, c'est le rêve.
Ah, je l'ai vu hier soir, ce film.
Quel est le souci d'un professeur de français, le premier souci?
L'argent.
C'est de donner.
Notamment.
C'est de donner envie aux élèves de lire. Ou c'est de donner envie aux élèves de comprendre, de découvrir.
Je sais pas si on peut le théoriser de façon comme ça globale. Bon, en gros, c'est d'ouvrir les curiosités, la curiosité intellectuelle tous azimuts.
C'est ce que j'entends par la lecture, en tout cas.
Oui. Pas seulement, mais la lecture, le cinéma, le théâtre.
Comment donner envie aujourd'hui?
Quel conseil donneriez-vous aux parents, aux enfants ou aux professeurs qui ont du mal à inciter des élèves à lire?
C'est difficile de donner des conseils à des profs qui en bavent. Hein. C'est pas, on peut pas faire le mariole dans ce domaine en disant mais vous savez c'est facile. Faites d'abord parce que la société a beaucoup changé. Mes élèves, moi je me suis arrêté à la fin des années 90 et ça a énormément changé. Hein. Ne serait-ce que dans le rapport des gosses à la marchandise, ils sont infiniment plus clients aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années
90. Le consumérisme l'emporte
ah,
sur
oui.
la littérature.
Oui. Non, mais le consumérisme, c'est le vrai rival des enseignants. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais en gros, ce que je dirais, mais à l'éducation nationale elle-même, c'est, par exemple, cette idée de théâtre. Faites du théâtre. Que chaque collège ait une troupe de théâtre, que chaque lycée ait une troupe de théâtre. Faites des projets commun.
Il voulait faire des chorales.
Non, parce qu'on est dans une ère. On est quand même là. Ce qui se passe en ce moment, c'est l'individualisme de masse. C'est ça qui s'est installé. Et ça vaut pour l'intérieur de l'école comme pour l'extérieur. Et donc, ce qui est pas mal, c'est en effet de rassembler des gosses dans des créations communes, quoi. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Mais
petite parenthèse, pardon, on parle pas souvent. Enfin, si, on s'amuse autour de l'actualité, mais là, on est totalement dans une actualité brûlante, notamment avec l'enseignement, les professeurs qui seront en grève demain. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous pensez qu'il faut une réforme, une énième réforme de l'éducation nationale?
Vous savez, moi, depuis que je suis. Un jour, j'avais calculé ça, depuis que j'étais en classe de 3e. J'étais en retard, mais ça date quand même pas d'hier.
Vous avez calculé le nombre de réformes que vous avez vécues?
Ouais, je crois que nous n'avons été qu'en période de réformes permanentes.
Est-ce que vous comprenez les profs qui...
Oui. Je comprends surtout les profs qui se soucient et de leur salaire et de leur retraite. Je comprends. On peut pas tout demander à une catégorie professionnelle à laquelle, sur le simple terrain du moyen de vivre, on donne si peu.
Et de leur importance dans la société?
Capital, bien entendu. Ce sont des adultes. Ce sont les adultes auxquels sont confrontés les gosses en dehors de leur famille. C'est absolument, c'est en effet un rôle essentiel, je dirais presque, même qu'ils le veuillent ou non. Parce qu'ils sont l'incarnation du monde adulte devant des gosses qui ont besoin d'adultes.
1985, vous écoutiez... Là, le consumérisme. Ouais, ça s'appelle un tube. Ouais, c'est la différence entre être et avoir qu'il y a dans cette chanson aussi. C'est la possession. C'est ce qui vous plaît dans la chanson d'Alain Souchon, qu'il dénonce justement ce consumérisme.
Dans Souchon, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a rien acheté.
L'écriture, donc.
Quand j'ai perdu Brassens, notre génération, à un moment donné, on a perdu Brassens. Brassens était pour moi le génie absolu. Et j'étais bien malheureux de ne plus avoir mon Brassens. Et on a vu émerger Souchon. Et Souchon, il n'y a rien acheté non plus. Vous écoutez, voilà, c'est ce qui me plaît chez lui.
Et on est en 85, c'est le début de la saga Au bonheur des ogres, Daniel. Et tout ça semble partir d'un cap ou pas cap.
Oui.
Non.
Si, c'était un pari, le bonheur des ogres. Ouais. C'est... Jean-Bernard Pouy, qui est un romancier, qui m'avait initié au roman noir. Il m'avait fait lire les 10 meilleures séries noires. J'avais jamais lu de séries noires à l'époque. Et j'ai dit, alors il me traitait d'un vrai crétin. J'ai dit, mais arrête de m'engueuler. File-moi tes 10 meilleures séries noires. Alors je les ai lues, et une fois que je les ai lues, il m'a dit,
t'es pas cap
d'en écrire une. c'est en effet là que j'ai écrit Au bonheur des ogres.
Et que vous avez créé Benjamin Malocène, qui est devenu aussi un... C'est rare comme ça en littérature qu'un personnage sorte des pages et devienne quelqu'un.
Mais il faut dire
on parlait d'incarnation tout à l'heure, tout d'un coup il y a l'impression qu'il existe ce Benjamin.
Ouais, mais il faut bien dire aussi que l'idée constitutive de Benjamin, qui est le fait qu'il soit bouc émissaire... je l'ai emprunté à René Girard, c'est-à-dire à un philosophe qui théorisait sur la bouc émissarisation. Et je lui avais dit, un jour on avait déjeuné ensemble, j'avais dit, vous savez, je vais utiliser l'idée de la bouc émissarisation dans un roman populaire où je vais imaginer un personnage qui soit un bouc émissaire professionnel, c'est-à-dire qui explicitement soit salarié pour se faire engueuler à la place des autres. Et ça l'avait amusé. Ça l'avait amusé. Il m'a dit faites.
On reçoit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel Pénac, on reçoit à l'occasion de votre livre, La loi du rêveur, Tristan Frédéric Moir, bonjour, merci de venir à ce micro.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes psychanalyste, spécialiste du langage du rêve. Tout à l'heure, Daniel Pénac a dit, on rêve parce qu'on vit, on est vivant parce qu'on rêve. Les deux sont intimement liés.
Oui, le rêve est une fonction vitale du cerveau et tous les organismes vivants rêvent, principalement les mammifères. Et le rêve vient mettre, comme l'a suggéré aussi Daniel, en forme des émotions. Le rêve, d'un point de vue neurologique, est un temps de gestion de nos émotions et des images.
Est-ce que vous avez une définition du bon rêve, du mauvais rêve, du cauchemar, du fantasme?
Alors effectivement,
quel est votre classement, puisque c'est un connaisseur?
Pour moi, un cauchemar, c'est un rêve qui se termine avant qu'on ait pu terminer le rêve, puisque l'impact émotionnel est trop fort. Donc là, il y a les cauchemars, les mauvais rêves et le rêve. Et c'est vrai que dans le langage courant, quand on dit un rêve, c'est plus que quelque chose de positif.
D'accord.
Et là, pour revenir sur la notion de fantasme, il y a des fantasmes positifs, il y a des fantasmes négatifs. Donc effectivement, on ne peut pas dire fantasme.
Ah, il y a des fantasmes négatifs.
Il y a des fantasmes négatifs, il y a des fantasmes d'échec, il y a des fantasmes de mort.
Mais alors, quelle est la nuance entre fantasme et rêve?
Alors, le rêve, donc, est un processus inconscient. C'est notre inconscient qui parle, et l'idéal, c'est de pouvoir avoir accès à ce contenu, puisque nous avons une deuxième vie, puisqu'il y a vraiment deux modes de vie.
Donc Guillermo avait raison, le fantasme, lui, il est éveillé, il n'est pas inconscient.
Le fantasme, c'est plutôt quelque chose d'éveillé.
D'accord.
Alors, d'après...
Ernesto, au début, je vous dis que je ne dis pas que des conneries. Vous ne croyez jamais.
Et on rajoute le que, alors.
Le rêve peut être un exutoire de nos fantasmes, selon Freud.
D'accord.
Mais le rêve est investi de nombreuses fonctions multiples, donc il y en a plein.
Puisqu'on arrive avec Freud à la psychanalyse ou à l'analyse du rêve, l'interprétation dont parlait aussi Tom tout à l'heure, tout le monde se pose des questions, tout le monde a rêvé ou cauchemardé en fonction de la manière dont on le vit, de perdre ses dents, de se retrouver
tout nu quelque part en public.
Nu en public et être gêné. Ce sont des rêves qui reviennent, qui sont récurrents.
Alors effectivement, ce sont des archétypes de rêve, des stéréotypes qui reviennent. La nudité, c'est vraiment très simple. Ça veut dire qu'on se met à nu devant les autres. On se montre tel que l'on est. Et bien souvent, les autres ne sont pas prêts à l'accueillir. C'est pour ça qu'on peut avoir un sentiment de gêne quand on rêve qu'on est nu. Mais se mettre nu, c'est vraiment simple. Et pour les dents, c'est pas compliqué. Un perdant.
Mais non.
Ah, c'est l'échec. Oui. On perd ses dents, c'est l'échec.
Quand on perd ses dents, c'est qu'on est en période de stress et qu'on est en période de fatigue. Donc on est, avec des jeux de mots, puisque le rêve est rempli de jeux de mots aussi, on est un perdant tout simplement.
Donc c'est un rêve qui n'arrive qu'en langue française.
C'est ça, c'est ce que je pensais.
Alors ça s'adapte aussi aux autres langues.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un rêve français, monsieur. Les Américains, eux, ils ont chewing-gum pour retenir les dents coincées. Est-ce que...
Non, mais je rêve que j'ai le mal de mer, c'est le mal de ma mère, c'est quoi c'est...
Bah voilà, on peut jouer
avec... Non, mais c'est que des jeux de mots,
ouais,
arrêtez.
Coup,
alors effectivement, ça c'est le vide, ce freudien.
J'ai mal aux genoux.
Ou l'esprit des mots, selon Jung, ou la langue des oiseaux. Il y a, dans l'approche du rêve, on peut jouer avec tous les mots.
D'accord.
Évidemment, quand on interprète un rêve, ce que l'on va voir, c'est le sens qui est le plus signifiant.
Bon, et les animaux, les serpents, les araignées dont on rêve?
Alors, les animaux, d'une façon générale, représentent nos instincts, les pulsions.
Ah.
Ce sont des aspects archaïques de la personnalité. L'araignée, c'est un des symboles les plus fréquents et les plus connus du rêve, c'est la mère possessive.
D'accord.
C'est la mère dévorante qui nous enferme dans sa toile.
Qui vous étouffe. Et le serpent?
Le serpent, c'est en rapport avec l'énergie sexuelle. Et donc c'est un principe guérisseur, puisque c'est le symbole d'Asclépio, c'est le symbole des pharmaciens, des médecins.
Oui.
Le serpent représente toute la puissance de soins qu'on peut avoir, et donc c'est l'énergie primordiale.
Donc c'est plutôt positif de rêver d'un serpent?
Alors, c'est plutôt positif, mais la plupart du temps on en a peur, parce qu'on ne sait pas canaliser cette énergie.
Alors justement, est-ce qu'il faut... l'eau.
L'eau, l'électricité.
Là c'est le retour, au liquide amniotique, non?
Alors l'eau, effectivement, c'est la première, c'est le premier milieu dont on est issu, c'est la mer. C'est l'inconscient, ce sont les émotions, puisque le rêve est un temps de gestion des émotions extrêmement important. Ça peut être l'amour, c'est le féminin, c'est aussi le féminin. Ce sont tous ces éléments qui sont plus informel, mais avec lequel on est en contact.
Le roman de Daniel Pennac commence par une inondation, justement, et par...
C'est magnifique. J'ai adoré. Toute la première partie, on plonge dedans.
Autant la deuxième était moyenne, mais alors là...
Non, ce qui veut l'impression que vous donnez, quoi.
ce qui veut dire...
que vous êtes vraiment emmerdé après.
Attention,
hein.
J'ai pas eu le temps de finir.
C'est ce que j'ai dit. C'est vrai que vous avez lu le livre hier, pour être précis.
J'ai
reçu
hier et j'ai lu jusqu'au moment... J'attends le moment où il va se réveiller.
Voilà. Mais non, n'en dites pas trop. Mais c'est vrai que cette inondation est liée à une catastrophe, liée aussi à la peur de perdre sa maman, ses parents, enfin une ville entièrement inondée.
C'est extrêmement bien vu, parce qu'effectivement, d'un point de vue psychologique, il y a la peur de la perte des parents, il y a la peur de la dépossession, de l'abandon. Donc des fantasmes qui sont vraiment mis en scène dans le rêve, puisque là le rêve va être la représentation des fantasmes de peur qu'on peut avoir aussi.
Mais quand on rêve de la mort de quelqu'un, on se sent d'ailleurs coupable après, de et un peu honteux.
Moi,
quand on est enfant. Non, je crois que malheureusement on l'a tout fait.
On l'a tous fait.
Laisse-le finir, enfin.
De rêver de perdre ses parents alors qu'ils sont encore en vie, on se sent coupable le lendemain matin au réveil quand on est enfant d'avoir rêvé de la mort de ses parents.
C'est une profonde angoisse, mais les rêves de mort, d'une façon générale, sont plutôt positifs. Ils correspondent à des processus de deuil de la personne, de rapport à l'autre. Pour un adulte qui rêve que sa mère ou son père meurt, ça veut dire que il n'est plus l'enfant de cette personne, il devient un adulte à part entière.
Quand on rêve qu'on tue sa mère, c'est pareil ou non ?
Alors ça, c'est beaucoup plus rare. C'est une inversion du complexe d'Oedipe.
Et quand c'est un rêve récurrent...
Une inversion du complexe d'Oedipe.
Oui. Si on tue sa mère, c'est une inversion du complexe d'Oedipe.
Oui.
Puisque normalement, Oedipe tue son père là-haut, ça...
Ouais. Oui, c'est vrai que Daniel, t'as couché avec ton père. C'est vrai que c'est vraiment l'inversion du complexe d'Oedipe dans tous les sens. Est-ce qu'il faut, comme le conseil Daniel Pennac, est-ce qu'il faut noter ses rêves?
Ah, c'est très important, effectivement, si on s'intéresse à soi-même. Noter au moins, pas tous les jours parce que c'est quand même très astreignant, mais noter au moins un rêve une fois par semaine, enfin c'est ce que je recommanderais pour être en lien vraiment avec son identité profonde, pour être en lien avec l'expression de nos désirs, puisque le rêve vient exprimer nos désirs.
Sauf que nous, on n'a pas cette interprétation que vous faites.
On
va noter une histoire sans savoir ce que ça veut dire.
Oui, mais le fait de le noter...
Mais si vous prenez rendez-vous au cabinet de monsieur, il pourra vous l'expliquer.
Alors, c'est une excellente suggestion.
C'est quoi ton dernier rêve?
Je suis d'accord.
Tu te souviens de ton dernier rêve ou pas?
Oui, mais là, je vais pas vous parler. Ça va pas être possible. Mais il y avait du serpent, je peux te dire.
Mais il y avait de l'eau aussi.
Moi aussi, mais il y avait l'araignée aussi. C'est très bizarre.
T'es un fourboyard, en fait.
Pardon.
Est-ce que là on a le sentiment qu'on a beaucoup de rêves communs les uns et les autres?
Démarre Nagui, on voit après.
Serpent, non mais alors, je veux dire dans la mort, les dents, la nudité, l'eau, les animaux, les poursuites, tout ça. Ouais.
Sacré scénar.
Dans une voiture.
Le sentiment de tomber aussi, moi ça m'arrive assez souvent, docteur.
Et pourtant il est tout petit, ça dure pas longtemps.
Non mais vous expliquez-le, j'ai pas peur. Oui.
Les rêves de chute sont effectivement des rêves récurrents, qui sont très fréquents, ce sont des stéréotypes de rêves qu'on retrouve, ils correspondent à des sentiments de perte, c'est lié à l'abandon du père la plupart du temps. C'est-à-dire quand on tombe, c'est qu'on manque de la présence du père qui apporte un support affectif stable.
Oui, au point de se réveiller en sursaut.
Ben oui, puisque on est confronté au vide. On a l'impression que le cœur se décroche et on tombe parce qu'on est confronté à un vide affectif.
C'est un sentiment. Est-ce qu'il y a des rêves qui correspondent à différentes, puisque il y a plusieurs sommeils dans nos nuits, différentes strates comme ça.
Oui.
Est-ce que les rêves dépendent du premier sommeil, deuxième sommeil, ainsi de suite? On fait pas les mêmes en fonction de de s'endormir ou on est dans un sommeil profond.
Tout à fait. Le psychisme a besoin du système régulateur du rêve. Donc c'est un reprogrammateur neurologique, c'est un rêve, c'est un moyen d'accès à la mémoire aussi, de stocker des informations, des expériences, de rejeter ce qui n'est pas bon. Et en tant que spécialiste du langage du rêve, moi ce qui m'intéresse principalement, ce sont les rêves d'émergence. C'est-à-dire ceux que l'on fait au matin et dont on se souvient. Puisque c'est ceux-là qui sont des rêves messages.
Est-ce qu'on peut les scénariser ces rêves, les diriger? Est-ce qu'on peut, commencer une histoire avant de s'endormir et la poursuivre en rêvant?
Alors ça dépend des individus et on peut influer sur le contenu du rêve, mais pour moi ça n'a pas grand intérêt. parce que ce qui est important.
Moi je me régale avec ça.
Alors effectivement, ça.
Faut pas oublier que Nagui est producteur.
Non, mais je vous jure, c'est génial. C'est-à-dire qu'on s'endort en disant je suis à tel endroit avec telle personne, on s'endort et puis le rêve continue. C'est génial.
Ah, ça peut être très bien. Mais pour moi, pour le travail, quand je travaille sur les rêves, c'est pour savoir ce que délivre l'inconscient.
Oui.
Et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le message brut de l'inconscient. Alors effectivement, sur le point de vue ludique, c'est comme aller à Luna Park.
Exactement.
Et donc, de se créer un univers.
Exactement.
Mais sur le plan...
avec le casting que l'on veut et qui l'on voit.
Avec le casting, donc je vous laisse après la suite.
Mieux se connaître grâce à ses rêves, c'est aux éditions Marie-Claire que vous avez publié ce livre. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres sur le sujet, dont le nouveau dictionnaire des rêves aux éditions de l'Archipel. Merci Tristan Frédéric Moir d'être venu à ce micro. C'est passionnant. Tanguy, tiens, c'est marrant, on parlait de toi. Tanguy, vous nous parlez des tensions entre États-Unis et Iran aujourd'hui.
Oui, puisque jusqu'à présent, les deux présidents se tweetaient des menaces. C'est comme quand Kelly des Anges Douces clash Samantha des Marseillais, mais avec des armes et des culottes. Mais bon, la tension cette nuit est montée. La planète brûle, mais on est encore là à se mettre sur la gueule. Décidément, je hais l'être humain. Je préfère les chats.
Et toute l'après-midi, Laetitia Gaillé sera là pour vous informer. À tout à l'heure, Laetitia, de rêve. C'est toujours rêve de Laetitia.
C'est
aussi le rêve d'elle. La bande originale avec Léla Cadoubou.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Jean-Guillaume.
Tom Villa.
Bonne année.
Guillaume Mouguiz. Tanguy Passion. Et notre invité Daniel Pénac. La loi du rêveur, ce livre aurait pu s'appeler également Mon amour pour Fellini, parce que c'est vrai qu'il est très présent, même d'ailleurs dans vos rêves d'enfant, puisque vous avez mis en exergue quelques citations de Fellini, puisqu'il y a un dessin de Fellini qui trône au-dessus de votre lit, dans votre chambre. Et c'est vrai d'ailleurs, quand on est enfant, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes autour de cette table, quand il y a un tableau à la maison, quand il y a un dessin accroché ou une statue, on la voit en mouvement, on la voit vivre. On rentre dans le dessin, on rentre dans la toile.
Et c'est le pouvoir d'un enfant quand il se couche, c'est aussi d'ouvrir la lumière, d'écarter les portes, de voir le faisceau lumineux s'ouvrir et d'animer les tableaux. Et ça, c'est hyper bien raconté. Moi, j'ai eu l'impression de me dire que j'étais pas la seule à avoir des pouvoirs magiques quand j'étais petite.
Ou d'avoir un ami imaginaire aussi.
Ouais, aussi. Ouais,
tout ça vous est réellement arrivé. Tout ça est quelque chose de régulier encore chez vous,
c'est
Daniel Pénac?
C'est arrivé au narrateur que je suis.
C'est faux. Je pense que c'est faux.
Oh, le schizo.
Mais non, mais...
Guillaume.
C'est intéressant ça, de savoir si c'est arrivé au narrateur, est-ce que c'est vraiment quelque part, c'est vraiment arrivé, ouais. Mais je suis pas arrivé à exprimer mon idée, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, narrateur, auteur, personnage, quoi. Savoir qui est qui, et est-ce que Daniel Pénac est vraiment lui derrière tout ça.
Je suis convaincu que c'est lui partout. Qu'il en rajoute, oui, qu'il y a une part de romancier, évidemment, mais le point de départ, il y a tellement de choses qui résonnent dans sa vie aujourd'hui, y compris et surtout familiale, musicale, artistique, théâtrale.
Ouais, je crois que d'un point de vue énonciatif, il cherche à nous perdre quand même, le Daniel.
Répondez, vous êtes accusé.
C'est pas comme si vous étiez parti.
J'allais vous poser la question.
Non, mais pourquoi? Parce que ça serait gênant de dire oui, c'est moi. Qu'est-ce qui...
Non, mais oui, bien sûr, c'est moi partout, des degrés divers.
Voilà, c'est ça. Exactement. La loi du rêveur, avec cette première partie où on est dans un rêve, peut-être dans un autre, peut-être encore dans un autre. On ne sait pas trop d'ailleurs à quel moment on revient à la réalité. On ne sait pas trop si ce barrage a existé, si l'inondation a eu lieu, si ce clocher d'église a encore son paratonnerre sur lequel les plongeurs peuvent venir s'empaler.
Le propre des rêves, c'est qu'on n'est jamais autant là que quand on est dans un rêve.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le propre des rêves. Le rêve, finalement, il y a un paradoxe, c'est l'incarnation absolue. Quand on est dans un rêve, c'est fou ce qu'on existe. Et donc, ensuite, que le lecteur se pose la question, lui, ben voyons, est-ce que là, je suis dans un de ces rêves, est-ce que je suis dans la réalité? C'est le jeu propre à la littérature.
Et votre jeu, vous le poussez à l'extrême, donc avec cette mise en abîme de l'auteur, en disant voilà comment je travaille finalement, parce que je m'appuie sur mes rêves, ou mes histoires sont de véritables rêves, je les fantasme. Et puis même la partie de création dont vous parlez avec le spectacle de Fellini que vous jouerez le 20 janvier au Piccolo, au Teatro à Milan, vous montrez bien que certains rêves peuvent devenir réalité. Là, ça devient l'inverse.
Oui, c'est même délicieux de pouvoir s'emparer éhontément d'un rêve, parce que lui nous a rien demandé. il nous a occupés, il nous a terrorisés, il a rempli tout le volume. Nos rêves nous sommes pleins comme des œufs quand on a des images qui provoquent des émotions. On est plein comme un œuf de ça. Et le fait de pouvoir l'exploiter après moi, ça me ravit.
Comme McCartney avait rêvé de Yesterday avant de le composer et d'en faire un énorme succès aussi. La loi du rêveur, c'est chez Gallimard, signé Daniel Pénac. Voici Tanguy Pastureau. L'actualité va vite, Tanguy Pastureau, toujours plus vite.
Ouais, on n'en peut plus. Je rêve d'un monde où n'existerait ni BFM, ni CNews, ni LCI, ce qui ferait que les gens se rendraient compte de l'existence de France Info. France Info, c'est la 27, donc on ne tombe pas dessus par hasard. Moi, à chaque fois que j'y suis, c'est parce que mon chat a marché sur la télécommande. Et c'est l'info, mais qui prend le temps. C'est-à-dire qu'on voit des journalistes mourir d'ennui, tandis que derrière eux, il y a un open space avec des stagiaires en pull moche, commandant sur bricorama.fr de la corde pour se pendre. Il y a trop d'actu. Prenez, hier, j'ai fait une chronique sur Sanna Marin, première ministre finlandaise. Bonne chronique, hein, je me suis mis 4 sur 20, ce qui pour moi est une bonne note puisque je me hais. Hein, j'ai moins d'estime pour moi-même que Neymar pour le reste des êtres humains à part lui. Vous avez même ri, hein, parce que j'ai mis 3 vannes accessibles. Le reste du papier était pointu. C'est ce qui me freine dans ma carrière. Hein, si j'étais plus grand public, Laurence Bloch, directrice d'Inter, me dirait poussin, je te mets en matinale et je vire tous les autres. Bec BD a raison, vous êtes 7000 comiques plus un poète, François Morel. C'est trop, on n'est pas au Marrakech du rire. À chaque fois qu'au passage d'antenne à 12h30, Philippe Bertrand entend une blague, j'ai envie de l'écorcher avec une râpe à gruyère. Bref, hier j'étais content de moi, j'avais parlé de la décision de la numéro 1 finlandaise de passer à la semaine de 4 jours. 12h35, j'ouvre Twitter, j'ai un message d'une dame, Christine Barilli, une inconnue, hein, parce que les réseaux sociaux donnent l'impression aux anonymes qu'ils ont le droit de s'adresser à nous. Disant, Tanguy Pastureau a encore perdu une occasion de vérifier ses infos avant sa chronique, ce projet de semaine de 4 jours est oublié. Elle renvoie sur le site Check News de Libé, un truc de vérification de l'info, c'est comme le service qualité chez Etam mais sans slip, qui à 11h53 a publié un démenti. Sanna Marin a parlé de la semaine de 4 jours, mais depuis a changé d'avis. Elle est pour la semaine de 18 jours. J'étais à l'antenne à 11h53, j'étais à l'antenne à 11h55 et j'ai pas mon téléphone en studio. Donc impossible d'avoir le démenti. À moins, et j'en appelle à la direction, de me mettre à disposition 4 jeunes de 3e pour dégrossir le boulot et me faire des cafés et me masser en m'appelant maître.
Stop, stop.
Donc là, je veux parler des tensions entre les USA et l'Iran. Donc autant vous dire que dans 4 minutes, la chronique est obsolète. Pourquoi croyez-vous que les autres chroniqueurs parlent des hitbags ou de leurs pratiques sexuelles? Parce que ça ne vieillit pas. Et ils sont jeunes. Ils ne savent pas encore que dans 10 ans, leur pratique sexuelle, ce sera un vague souvenir ou une vidéo pour les plus prévoyants. Hein, je vous le dis, Guillermo Guise, mon petit. Contactez Rock Éclair parce que les funérailles de votre bavande, c'est demain. Mais revenons à l'Iran. Moi, j'ai grandi dans la haine de l'Iran. Puisque petit, dans tous les films américains que je voyais, un méchant sur deux était iranien, l'autre était irakien. Si à 7 ans, j'avais croisé un iranien adulte, j'aurais mordu le pubis en criant « Crève, saleté de perche, je te souhaite de la gastro ». Et bah Donald Trump, actuellement, est l'enfant de 7 ans que j'étais. Parce que les Iraniens, ils les détestent. Le 3 janvier, il a tué un général, quand même. Qassem Soleimani.
C'est vrai. Pardon, excusez-moi. Mais qui était ce monsieur Soleimani? Moi je sais, mais vous me demandez de vous le demander.
Eh bien, Nagui, son vrai nom était Kevin Smajda. Il était né le 1er juillet 91 dans le 16e à Paris. Ou alors, en fait, j'ai copié la page Wikipédia de Kev Adams. Hein, parce que quitte à se faire critiquer par Christine Barilli sur Twitter, autant ne plus en foutre une rame au niveau de la recherche d'infos. Hein, pour moi, 1515, c'est le numéro du Téléthon. 36-37 de la bataille d'Alésia, j'en ai plus rien à taper. Hein, pour ce qui est de géopolitique sur Inter, s'adresser à Pierre Aski, 22 rue Boileau, Paris. Je sais, c'est l'adresse de Chiri FM, mais je m'en fous de tout. Hein. Allez sur Check News. Christine Barilli m'a brisé cette dame, ça aurait été mon Guantanamo. Alors, ce que je peux vous dire par contre, c'est que le général Soleimani en Iran était aussi aimé que la biafine lait des nudistes à Cancun. Parce qu'hier avait lieu son enterrement, ça a généré une marée humaine, comme un cancer géant de Mylène Farmer, sauf que là, les gens avaient l'air moins tristes. Je sais pas, ils doivent pas avoir de télé-réalité, donc au lieu d'aduler des picards à gros seins comme nous, ils sont tous fans d'un général. Résultat, dans une bousculade hier, il y a eu 50 morts. Assister à un enterrement et mourir soi-même. Ça paraît très con, mais c'est bon pour la planète. Parce que les morts sont déjà sur place. Donc pas de corbillard diesel, zéro CO2. Ah bah moi je fais mon jogging que dans les cimetières. Parce que je me dis que si je fais un malaise cardiaque, hop, on me laisse sur place. Hein, je tourne en courant autour de la tombe de Molière au Père-Lachaise par peur d'être inhumé à côté de ses Jérômes. Hein, ma vie n'aura pas été très digne, je mise tout sur ma mort. Bref, le général est décédé. Du coup, le président iranien, qui est né en 1946 à Saint-Étienne. Bon, ok, c'est Bernard Lavilliers. Bon, bah le président est furax. Il a déclaré « Trump devrait se souvenir du nombre 280 ». Alors, il se prend pas pour Laurent Romeshko. Il fait référence à l'année 88 quand un navire de guerre américain avait abattu par erreur un avion de ligne iranien, faisant 290 morts, dont 66 enfants. Trump, lui, a tweeté « L'Iran n'aura jamais la bombe atomique », écrit en majuscule et sans émoji cœur ni panda, donc ça veut dire qu'il est menaçant. Hein. Mais ces deux couillons vont nous déclencher une guerre, parce qu'il n'y a que des abrutis au pouvoir. Là, ils en sont à se tirer dessus. Dire que Serge Dassault n'aura pas vécu assez longtemps pour voir ça, mais quel gâchis! Enfin, tous des abrutis, sauf Sanna Marin, première ministre finlandaise. Mais je dis plus rien sur elle. Ça va réveiller Christine Barré.
La bande originale, Nadie. Sur France Inter.
Ah, maintenant, il est devenu connu grâce à toi. Ouais,
et on l'embrasse. La pub que tu lui fais. On te retrouve, Tanguy, le 25 janvier, c'est à Saint-Jean-de-Maurienne.
Exact.
Peut-être avec cette charmante jeune femme.
Je crois pas. Non, je crois pas. Puis on en parle trop maintenant, on va s'arrêter voilà. Avec elle. Daniel Pénac, vous signez la loi du rêveur chez Gallimard. Il y a aussi, j'ai parlé de deux temps, de deux mouvements en tout cas dans votre narration, mais il y a aussi deux mouvements dans votre écriture. Toute la première partie de l'écriture, on a le sentiment d'être soi-même un enfant d'ailleurs en train de lire un livre et d'être avec un enfant qui nous raconte ses rêves. Votre style s'adapte au sujet.
Oui, ça c'est...
C'est un plaisir aussi, ouais.
c'est mon boulot, je dis.
Non, mais c'est un exercice. Il fallait être dans la peau d'un enfant de voilà, 10 ans pour raconter ses rêves.
Dans toute la première partie du livre, on a une conversation entre
Louis et vous.
Deux gosses qui sont, et qui sont comme les enfants, c'est-à-dire extraordinairement convaincus. Alors, le premier est absolument convaincu que la lumière, c'est de l'eau. Le deuxième n'y croit pas. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes?
Et son père dit, absolument, il a raison.
Et le père finit par dire...
En montagne.
Énergie hydroélectrique, etc. Donc oui, c'est frappant quand, dans les conversations entre les enfants. Ce qui est frappant, c'est la conviction. La conviction absolue d'un truc totalement irrationnel, mais qu'ils vont défendre en se donnant l'impression de parler rationnellement. Ça, j'adore ça. Quand j'entends ça, moi, je me tiens dans mon coin, je me tiens peinard, j'écoute.
Alors justement, est-ce que vous êtes un vampire aussi des histoires des autres, ou des rêves des autres, avec votre famille, les enfants, les petits-enfants?
Quand des gens parlent autour de moi, je les écoute.
Dans le Vercors, est-ce que vous piquez des trucs?
Dans le métro, j'écoute. Ouais. Dans le café, oui, bien sûr, j'écoute.
Et quand vous observez des gens que vous croisez dans justement au café ou dans la rue, vous leur inventez des vies?
Ah oui, j'écoute. Puis alors j'ai
comme Fellini, c'est-à-dire vous voyez des gueules et vous imaginez...
Il n'y a pas très longtemps, on était à Venise avec ma femme, on a des amis à Venise, et on était au Palais des Papes, on est allé voir le Palais des Papes, et derrière, il y avait un couple, le grand garçon, une soixantaine d'années, et la maman, 90 ans à peu près, et le grand garçon, regardant les ors du Palais des Papes, comme ça, disait à sa maman, il disait... Ça te fait pas penser au Train Bleu, toi? Le restaurant de la gare de Lyon. Ça, c'est merveilleux. Parce que c'est des petits moments de poésie comme ça, purs, qui passent. Voilà, c'est ça, j'aime bien entendre ça.
L'écriture de Daniel Pénac évolue au fur et à mesure de cette loi du rêveur publiée chez Gallimard. Ben justement, on va parler de Gallimard avec cette première question sur l'actualité culturelle. Vous pouvez tous répondre, y compris vous, Daniel, cette fois-ci. Il n'y a pas de vrai ou faux, vous êtes concerné. C'est une première que vient d'annoncer Gallimard dans le monde de l'édition. Quelle est cette première?
Ils arrêtent la commercialisation des livres de Gabriel Matzneff.
Exactement. C'est la première fois que Gallimard prend une telle mesure. Je pense même la première fois qu'une maison d'édition prend une telle mesure. Quand on est auteur chez Gallimard et que ça se passe dans sa propre maison, on est aussi concerné?
Oui, mais on est concerné par l'affaire en
clairement,
général.
Tous, oui.
Cette affaire Matzneff, c'est surtout et avant tout un déni de justice inouï. Parce que, bon, par exemple, on casse les pieds à Pivot, mais enfin, quand Pivot a invité Matzneff à Apostrophe, il y a des commissaires de police, il y a des procureurs de la République, il y a des juges d'instruction qui regardent
la
télé.
On casse pas les pieds à Pivot. On casse pas les pieds à Pivot aujourd'hui parce qu'il a reçu par le passé cet auteur, parce qu'à l'époque tout le monde écrivait sur lui, il lui faisait la révérence. Je crois que là, surtout récemment, Pivot a été attaqué parce que sa justification au lieu de dire, voilà, j'étais un peu comme tout le monde à l'époque, c'est un truc de con, en effet, j'ai invité Gabriel Masneff,
au Tempora, au Maurès, à l'époque, il y avait d'autres...
Voilà, il justifie ça en disant, c'est une époque. À l'époque, la littérature était supérieure à la morale, et c'est là où on peut s'interroger sur le bien fondé de la réflexion de Bernard Pivot.
Mais depuis, évidemment, il fait
les bouts de l'histoire. Depuis, il a présenté ses excuses sur cette
Ce qui me frappe, c'est le déni de justice dès le départ. Mm-hmm. Flaubert disait déjà ça à George Sand. George Sand, souvent, était très, très, très... elle était une femme adorable et qui était très affectivement touchée par les choses. Et elle réagissait. Elle réagissait comme MeToo aujourd'hui. Et Flaubert lui disait, tout ce que vous dites me touche, mais je n'y entends pas le mot justice. Mmh. Et dans toutes ces affaires-là, moi, ce qui me manque, c'est le mot justice. C'est-à-dire qu'on laisse un type raconter qu'il s'envoie des enfants, etc., etc., pendant des années et des années, ce qui est un délit, le type l'écrit noir sur blanc, et vous avez toute l'institution judiciaire ne bronche pas.
Mmh. Moi,
les juges à ça.
On n'est même plus dans le débat de distinguer l'artiste de l'œuvre, puisque là, c'est pas c'était écrit. Son œuvre reposée sur son comportement criminel. Oui, bien sûr.
Et une justice qui ne réagit pas, c'est-à-dire une société en effet entière qui n'est pas réductible aux journalistes, aux lecteurs, aux éditeurs, etc. Une société qui, via l'institution judiciaire, ne réagit pas.
Mais là, la question par rapport à l'éditeur Gallimard, c'est de se dire, est-ce que tous les auteurs qui, par le passé, dans leur histoire, ont eu un comportement contraire à la loi, doivent-ils être supprimés du catalogue ?
Là, vraiment, la décision est à l'éditeur lui-même.
Mmh. Mais l'éditeur, ça fait 30 ans que Gallimard publie les textes de Gabriel Masneff, oui, donc ils savent très bien ce qui était écrit dedans.
Peut-être qu'ils n'avaient rien lu.
Daniel.
Okay. Non, mais c'est délicat. Ils auraient pu s'en rendre compte avant. Quoi.
Ce qui est le plus gênant, je trouve, c'est qu'on a encore vu des images hier d'émissions comme celle d'Apostrophe, c'est de voir tous les invités qui sont autour qui font des blagues et qui rient.
Alexandre Jardin reste interdit aussi. Il ne sait pas quoi dire. Il est muet.
Il y a beaucoup de gens qui rient.
Et Denise Bombardier qui s'énerve.
Je me souviens très bien à l'époque que la personne qu'on critiquait était Denise Bombardier.
Oui, c'est
ça.
Sûr.
Je me souviens très bien. Moi, la conversation que j'avais à l'époque avec mes amis, c'était l'enfance. On a mis 19 siècles à protéger l'enfance. Mmh. Hugo en France, Dickens en Angleterre, Gorky en Russie. Finalement, sauver l'enfance du travail, à amener l'enfance à l'éducation et la conversation. J'ai dit, pourquoi diable la sexualité serait le seul domaine où il faille pas protéger l'enfance? D'où ça sort, ça? C'était ça, ma position à l'époque.
Vous avez totalement raison. Un auteur, et pourtant la justice ne fait toujours rien contre
rien
lui,
du tout.
C'est Daniel Morin.
Rien du tout. Allez, aujourd'hui, quelques nouvelles en vrac, et on commence par une triste nouvelle. Le brushing est en deuil. Jacques Dessange est mort hier.
Oh, salaud.
Aujourd'hui, fer à friser, sèche-cheveux, peigne et brosse de tout poil sont infiniment tristes. Jacques Dessange, c'était un hymne à la mèche. Une invitation d'écollement de racines.
Comme toi.
Un hommage, oui, c'est trop décollé. Un hommage à la mise en pli. Pour la domestication du cheveu, il y a eu un avant et un après Dessange. Le cheveu maîtrisé, c'était lui. Les pointes fourchues. Grâce à lui qu'elle n'existe plus. L'arrogance domptée du cheveu rebelle au service d'une coupe sauvage mais maîtrisée, c'est encore lui, le fameux style coiffé-décoiffé. 9 mois après, Jacques Dessange rejoint Jean-Louis David au paradis des bigoudis. Autre mauvaise nouvelle. Musique.
Je m'attends au pire.
On l'a appris hier, le footballeur Neymar a fait un petit bilan de son année 2019. Eh bien, la conclusion est navrante. Le Brésilien déclare: pour moi, 2019 a été une année difficile à tout point de vue. Hop, 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 hop. Financièrement, c'était plutôt cool 2019 pour toi, mon garçon. Hein, moi aussi, j'ai quelques petits soucis. En revanche, j'ai pas encaissé comme toi 92 millions d'euros.
Non.
Pour moi, si. Le contrat, la pub, tout ça, les droits à l'image. Pour moi, une année à 92 millions, elle peut pas être en tout point difficile. Hein. Alors, ok, les motifs d'inquiétude existent pour toi aussi, je dis pas le contraire. Hein. Je sais que pour toi, ça va pas être facile d'aller jusqu'à l'âge pivot de 64 ans. Je sais.
Surtout quand il joue.
Je sais qu'on ne tient pas compte de la pénibilité de ton boulot, c'est vrai. Recevoir des ordres en français avec un accent allemand, c'est pesant. Quand on vient pas de Vichy. Mais bon,
Si tu mets un peu de côté chaque année, tu devrais avoir de quoi vivre tes vieux jours dans une relative dignité. Alors voilà pour Neymar. Dernière actu, attention, actu flippante, hein, puisqu'elle touche notre santé. C'est cette histoire du virus chinois très mystérieux, un virus qui ressemble à la pneumonie. Une soixantaine de personnes sont touchées, des malades jugés dans un état critique. Pour l'instant, le virus semble cantonné au centre du pays. À première vue, pas de contamination entre humains, mais attention, il y aurait danger à fréquenter de trop près certains animaux. Alors, ouf, serait-on tenté de dire dans un souffle de soulagement ? Eh ben non, pas tous. Guillermo, on sait tous que tu es différent, que romantiquement, tu as des attirances particulière.
Bestiale.
On ne te jette pas la pierre, on sait que tu es belge, on sait que tu aimes les animaux, que longtemps tu as été en couple avec une biquette wallonne, que la dite biquette, je la connais bien, crois-moi, c'est pas quelqu'un de confiance. On l'aurait vu fricoter un soir avec un bouc tchétchène, vedette d'un circambulant, et on le sait tous, le bouc tchétchène, c'est jamais le dernier quand il a un jour off pour aller se taper des chamois prostitués du côté de Shanghai. D'où la possibilité que tu sois affecté par ce nouveau virus. En même temps, ça expliquerait peut-être ta diction aléatoire, tes raisonnements insensés et ton rire épileptique. Allez savoir. Sinon, à part Guillermo, pour ceux qui savent garder leur distance avec les bêtes, je vous garantis que ça devrait aller. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Qu'avons-nous retenu de la visite de Daniel Pénac dans cette émission, Leïla, pour toi ?
C'est un très beau raconteur d'histoire et au passage, qu'il fait référence à un livre que j'aime beaucoup, que j'ai envie de relire grâce à vous, c'est Paulina 1880 de Pierre-Jean Jouve. Voilà.
Daniel Morin ?
Ben moi, je retiens que Daniel Pénac s'inspire de ses rêves, ça le mène au succès. Moi, j'ai peur que si je fais la même chose, ça me mène en prison. Voilà, c'est juste ça.
Tom Villa, que ça reste un grand enfant et qu'on voit son œil briller, scintiller, qui sait écrire maintenant, mais un grand enfant.
Guillaume Guise.
Moi, j'ai fait un rêve où je parlais correctement. J'aurais dû le noter. Comme Daniel Pénac. Non, merci.
Tanguy Passion.
Moi, d'habitude, j'ai très envie de dormir. Et là, j'ai encore plus envie de dormir pour rêver et puis m'ouvrir les portes de la perception. Ça va être formidable.
Qu'aimeriez-vous, justement, Daniel Pénac, que l'on dise après avoir lu La loi du rêveur chez Gallimard?
Faites comme les enfants, encore. Est-ce que leur raconte des histoires.
Est-ce que vous aimeriez que pratiquement tout le monde se mette, enfin moi c'est l'une de mes envies, vous me dites que c'est pas trop tard, mais se mette à écrire ses rêves. Est-ce que ça serait déjà un signe
de
transmission
c'est pas une envie personnelle, mais c'est un plaisir que je vous conseille, oui. Oui, bien sûr. Et...
Le 20 janvier en spectacle à Milan, et d'ici là, lisez-le, La loi du rêveur, chez Gallimard, signé Daniel Pénac. Des excuses à présenter, Daniel?
Bien sûr, désolé déjà pour toi, Leïla. Ah oui. Leïla qui a découvert ce matin qu'en cas de guerre, elle ne pourrait pas compter sur Ernesto Benito Guiz. Mais ma pauvre, il a le regard du lâche, le physique du collabo, le cheveu du nazi. Ordure, douanier, salaud de Belge. Oh, il me dégoûte. Désolé pour les fans de Guerre mondiale et de Daniel Pénac qui ont découvert que c'était leur idole qui avait empêché de passer un autre bon moment à base de charniers, d'envahisseurs nazis et de collabos belges. Salaud de Pénac. Désolé pour les fans de Guillermo qui ont découvert que leur idole ce matin avait dit quelque chose de, je cite, pas complètement con. C'est très simple. T'es viré de la bande originale, tu es transféré immédiatement chez Laura Adler, elle va adorer ton accent de pauvre. Et des blagues sur ta teub. Courage, Laura.
Mais ça va pas, mais t'as craqué.
Mais la teub est un mot grec, il faut qu'on ait le citer.
Non,
c'est anglais, c'est le tube, c'est le métro. Le livre de mes rêves, signé Federico Fellini, ressortira
le 15 janvier, je crois. Hein.
D'accord, très bien.
Chez Flammarion.
Chez Flammarion. Le livre de mes rêves et l'autre rêve, La loi du rêveur, c'est Daniel Pénac. Merci Daniel, portez-vous bien.
Merci à vous.
Merde pour le spectacle à Milan. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui.
Bonjour Philippe.
Salut
bonjour.
Les amis, et bravo, je vois que vous faites rêve aujourd'hui.
Oh, bien.
Joli.
Bien.